Nous arrivons maintenant à la fin de ce chapitre 8 des Romains. Donc on a vu tous les développements depuis le chapitre 1. Et c'est un texte absolument sublime. C'est un peu comme si on est sur la Terre Sainte. J'ai envie d'enlever mes sandales, mes chaussures, mais je ne vais pas le faire. Parce que c'est tellement beau ce texte que... À la limite, on se dit, bon, il suffit de le lire, pourquoi faire des commentaires dessus, mais je vais quand même en parler un petit peu. C'est un texte absolument sublime. Enfin, je vais revenir peut-être en arrière, juste, voilà, je vais le lire. Que dirons-nous donc? C'est verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça vaudrait la peine presque de l'apprendre par cœur, ce texte, et pouvoir se le dire très souvent, tellement, tellement, il est beau. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Un petit résumé, parce que c'est toujours important de savoir où nous en sommes dans un texte biblique. Et depuis plusieurs semaines, nous regardons ce chapitre 8 des Romains, qui est aussi un monument tellement important. Parce qu'après avoir montré que nous sommes justifiés, déclarés justes par le sang de Jésus, pour avoir une relation avec Dieu, pour avoir la vie éternelle, la question se pose, alors maintenant, sur la terre, comment allons-nous vivre? Il y a toujours la tentation, la double tentation que les chrétiens ont connue depuis des siècles, pour dire, d'une part, je suis sauvé, donc ce n'est pas grave si je me laisse aller à un certain moment, parce que de toute façon, je suis sauvé. Ou de l'autre côté, maintenant que je suis sauvé, il faut absolument que j'obéisse à toute une suite de règles, de lois, pour être sûr que je plais à Dieu. Et nous sommes en fait sur la corde raide entre les deux, hein, comme un funambule avec sa perche. Enfin, il avance en évitant de tomber d'un côté et d'un autre. Et la réponse que je vous propose depuis le début du mois de janvier, c'est que la vraie réponse à cette question, ce n'est ni le laisser-aller, ni le légalisme, mais la nouvelle identité que nous avons en Christ en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est ça qui est au centre de ce chapitre. Nous l'avons déjà vu au verset 15 et 16. Hein. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà notre identité. Et nous avons vu la semaine dernière, et c'est marrant parce que Timothée a cité le verset tout à l'heure, que toutes choses concourent au bien. Et nous avons vu que toutes choses concourent au bien, non pas pour notre bien-être matériel, mais pour que nous ressemblions à Jésus, c'est-à-dire que nous ressemblions à notre frère, en quelque sorte, qui est aussi fils de Dieu, mais bien sûr, hein, dans un tout autre sens. Mais il y a quand même cette idée, parce que ce verset 29 dit qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, toutes les difficultés de la vie nous amènent à mieux comprendre notre identité d'enfant de Dieu. Alors, ayant vu tout cela, on tombe sur le verset 31. Dans ma traduction, c'est « Que dirons-nous à l'égard de ces choses ?» J'aime bien la traduction du Sommer, très simple. « Que dire de plus ?» Tout simplement. « Que dire de plus ?» Après avoir dit tout ça, « Que dire de plus ?» Voilà, Paul arrive quand même à dire 8 versets encore. Non, il y avait des choses à dire de plus pour résumer tout cela. Et ce que nous avons, en fait, c'est une série de 5 questions pour terminer ce chapitre. Une série de 5 questions. Et c'est ça que nous voulons voir ce matin, ces 5 questions. Et assez souvent d'ailleurs, la réponse est presque incluse dans la question même. Pas toujours, mais assez souvent dans la question même, on a la réponse. Donc on va voir ces 5 questions. La première question, c'est le verset 32. 31 en fait. 31, excusez-moi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui serait contre nous? En fait, on pourrait dire que beaucoup de choses pourraient être contre nous. Nous vivons dans ce monde et nous avons des problèmes matériels des fois, des problèmes émotionnels, des problèmes spirituels. Très classiquement, dans la théologie chrétienne du Nouveau Testament, on dit que le chrétien a 3 ennemis. Le monde, la chair et le diable. Le monde qui est l'opposition, qui est la société qui s'érige en opposition à Dieu. La chair, c'est le monde en nous. En quelque sorte, c'est quand moi aussi, je ne veux pas vivre avec le Seigneur. Et le diable est toujours là pour tenter, ou même pour dévorer comme un lion rugissant, hein, pour citer Pierre. Et pourtant, nous avons la réponse dans la question « Si Dieu est pour nous, qui serait contre nous ?» J'aime bien dans ce sens citer le grand cantique de Luther, que l'on va d'ailleurs chanter tout à l'heure. C'est un rempart que notre Dieu, qui est basé sur le psaume 46, qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Et puis, un petit peu plus loin, les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Mais Dieu fait entendre sa voix. L'Éternel des armées est avec nous. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit, il y a un petit clin d'œil au psaume 46 ici. Et avant de passer à la deuxième question, je voulais vous lire ce grand cantique du réformateur Martin Luther, que nous allons chanter à la fin du culte. Donc, en réponse à la question « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre, l'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Seuls, nous branchons à chaque pas notre force et faiblesse. Mais un héros dans ces combats, pour nous, lutte sans cesse. Qui est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur. Dieu des armées, tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Ta Sion brave les enfers sur le rocher assise. Constant dans son effort, en vain, avec la mort, Satan conspire pour sapir son empire, il suffit d'un mot du Dieu fort. Dis-le, ce mot victorieux dans toutes nos détresses. Répands sur nous du haut des cieux tes divines largesses. Qu'on nous enlève nos biens, qu'on serre nos liens, que nous importe. Ta grâce est plus forte et ton royaume est pour les tiens. Un beau cantique. On va le chanter tout à l'heure. Deuxième question. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Toutes choses nécessaires. Parfois il dit non. Parfois il dit attends. Mais il nous donne toutes choses nécessaires avec lui. Quelle est la preuve? C'est que le Père nous a déjà donné ce qu'il avait de plus cher. Donc, puisqu'il a fait le plus gros, si on veut, il va faire le reste. Puisqu'il nous a sauvés, nous a donné la vie avec lui en Jésus, bah, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Paul d'ailleurs avait déjà utilisé cet argument dans Romains 5, à partir du verset 8, quand il dit « Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Donc voilà, toute la suite. Donc Dieu est pour nous et il nous donnera tout ce qui est nécessaire. Troisième question. Qui accusera les élus de Dieu? On est comme au tribunal. Quel est le chef d'accusation contre les chrétiens ou contre un chrétien? On en a plein. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et on peut assez facilement verser dans la culpabilisation. J'ai pas fait ceci, j'aurais dû faire cela. J'ai fait ceci, j'aurais pas dû le faire, etc. Et donc voilà, c'est la voix de notre conscience en quelque sorte. Mais il faut le savoir que notre conscience n'agit pas tout seul. Parce qu'il y a aussi quelqu'un qu'on appelle dans la Bible l'accusateur des frères. C'est dans Apocalypse 12. L'accusateur des frères, diabolos, qui veut dire en fait calomniateur ou accusateur, c'est le sens même du terme diable, diabolos, l'accusateur. Et il est assez facile de se sentir culpabilisé, alors qu'au fond, ça c'est une chose que le chrétien ne doit jamais sentir, jamais. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas, mais il dit, il y a toute la raison pour ne pas se sentir coupable. Mais moi le premier, hein, je dis, je ne devrais pas, mais ça arrive. Mais pourquoi? Parce que si on a fait quelque chose de mal, ou si on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on fait? On confesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Et la question que j'ai déjà posée ici, parce que je m'en souviens, c'est combien de temps faut-il laisser passer avant le moment où on demande le pardon et au moment où Dieu l'accorde? C'est 3 jours? Juste le temps de vraiment nous sentir vraiment mal? Ou peut-être 1 heure, hein, le temps de faire une petite culpabilisation quelque part. Et bien le sentir. 1 heure? 10 minutes? Ah, même avant, c'est instantané, en nanosecondes. Hein. C'est comme ça que ça se passe. On demande pardon et on est pardonné. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se lève de nouveau, on avance. On avance. On avance. De nouveau. L'exemple type, on le dit souvent, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Il ne reste pas 3 jours par terre en disant « jamais je ne marcherai ». Il se relève. Et puisque le Seigneur, il dit « il éloigne notre pensée », aussi loin que l'est de l'ouest. Il oublie nos iniquités. C'est encore une histoire que j'aime bien, je suis sûr que j'ai déjà raconté. La personne qui avait l'impression de commettre le même péché, et puis donc il se lève le matin, il confesse au Seigneur, et donc il dit, Seigneur, voilà, je me suis encore mis en colère, je ne sais pas quoi. 5 minutes après, il prie de nouveau, et il dit au Seigneur, j'ai encore refait. Et le Seigneur dit, refais quoi? Parce que le Seigneur oublie. C'est marqué. Hein? Le Seigneur oublie, c'est ce qu'il a dit dans le texte. Il oublie. Donc, quand dans Apocalypse 12, nous avons ce texte qui dit qu'il est l'accusateur des frères, je vais le lire. Apocalypse 12, 10 à 11. Il dit, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc il y a trois éléments. Le premier s'applique à chacun de nous, à cause du sang de l'agneau. Mais aussi, on peut ajouter à cause de la parole de notre témoignage. Parce qu'en fait, malgré tout, on continue à parler du Seigneur. Et dans certains cas, tenir bon peut impliquer même la persécution et le martyre. Mais retenons la première chose sur cette liste, puisqu'on en parle, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, qui nous donne le pardon. Quatrième question, le verset 34. Parce qu'on a vu au verset 33, qui accuserait les élus de Dieu, la réponse est Dieu qui justifie, donc qui déclare juste. Le verset 34, qui les condamnera? À la réponse, c'est Christ est mort, bien plus, il a ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est un peu le même contexte de la question précédente, hein, le tribunal qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Mais seulement c'est la grande question du chapitre, parce que n'oublions pas, tout au début du chapitre, premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc c'est le début du chapitre, il n'y a pas de condamnation. Parce que qui peut nous condamner? En fait, il y a effectivement, on va dire, trois réponses à cette question au verset 34. D'abord, Christ est mort. Donc cela veut dire que il a payé pour nous et il y a le pardon, donc il n'y a aucune raison d'être condamné. Deuxième chose, Christ est ressuscité, il est vivant. Et là, je reviens à un chapitre qu'on a déjà vu. Là, j'ai mal marqué le verset. En fait, c'est le verset, oui, Romains 5, 12. Il dit, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, donc ça c'est là qu'on a déjà vu, il est mort, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, puisqu'il est vivant. Il est toujours à nos côtés, en quelque sorte, et la preuve même, la troisième partie de cette réponse, puisqu'il est vivant. Il a ressuscité, il était à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il est notre avocat. Ce texte n'est pas le seul d'ailleurs qui dit que Jésus prie pour nous, parce que nous avons également la même pensée, ça vaut la peine de le dire, dans Hébreux 7 et le verset 25, qui dit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Donc, Jésus prie pour nous. Donc, trois raisons, en fait, de Qui les condamnera? La réponse est personne. Parce que nous avons le pardon, nous avons la vie. Jésus est vivant pour nous aider et il prie pour nous. Maintenant, on arrive à la cinquième question. Qui nous séparera de l'amour de Christ? À la différence des autres questions, Paul propose des réponses possibles. Il mentionne au verset 35 cette chose. Est-ce que la tribulation peut nous séparer de lui? Est-ce que l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou même l'épée, l'épée qui veut dire finalement la mort, hein, donc, est-ce que tout cela peut nous séparer de lui? Et la réponse est encore non. Et la réponse, en fait, il faut bien le comprendre, au verset 36, la réponse est en fait une citation du psaume 44. Et dans ce psaume, je vais lire deux versets, le psaume 44, 23, le verset 21 à 23. Voilà ce que dit le psalmiste, ou les psalmistes, les fils de Corée. Psaume 44, 21. « Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Et c'est ce verset-là qui est cité dans Romains 8. Donc, dans le contexte, ça veut dire que Paul dit, en fait, aux Romains, « Ok, peut-être que vous allez connaître la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. C'est possible. C'est pas ce que la vie peut apporter. Mais n'oubliez pas que si vous subissez cela, ce n'est pas parce que vous avez mal agi. C'est à cause du nom de Christ. Donc, ce n'est pas donc une raison de dire qu'on est séparé de Dieu, de l'amour de Christ par ces choses. Si vous avez ces difficultés, c'est parce que vous êtes fidèle et non pas parce que vous êtes infidèle. C'est important. Donc, il continue au verset 37 et il dit, donc dans toutes ces choses, nous sommes, et là je vais le lire le terme tel qu'il paraît dans la Bible en grec, dans toutes ces choses, nous sommes hyper vainqueurs, littéralement, plus que vainqueurs. C'est hyper vainqueur, c'est le mot en grec. Nous sommes hyper vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et dit donc, j'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Là encore, toute une liste. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni ce qui est actuel, ni ce qui est à venir, les choses présentes, les choses à venir, et puis les puissances, la hauteur, la profondeur, c'est pour dire rien. Rien ne peut nous séparer de son amour. Un dernier mot, en conclusion. On continue. J'ai dit et redit depuis plus d'un mois, ce qui compte pour notre sanctification, c'est notre identité d'enfant de Dieu. Hein? C'est parce que nous sommes ses enfants que nous voulons lui plaire et que nous avons une relation avec lui. J'ai mis 3 points de suspension parce que la phrase n'est pas finie. Et là, je vais changer, je vais aller dans une direction un petit peu autre, mais qui est importante. Mais ce qui compte encore plus, c'est l'identité de Dieu comme notre Père céleste. Parce que si nous sommes ses enfants, c'est parce que lui est un Père. Donc, je m'accroche à cette identité, non pas d'abord par ce que je suis, mais par ce qu'il est lui. C'est là. Et si on passe en revue toute cette lettre aux Romains, on va voir que Dieu est un Dieu qui aime, qui nous aime. Dieu est un Dieu qui nous sauve. Dieu est un Dieu qui nous garde. Dieu est un Dieu qui nous inclut dans son dessein bienveillant. Donc, nous avons déjà parlé de son dessein la semaine dernière, qui va d'éternité en éternité. Il a un plan pour l'univers. Et nous, nous qui sommes ici ce matin, on ne paie pas beaucoup de mine, hein, on n'est pas très nombreux, on n'est pas les grands de ce monde, mais c'est nous qui sommes inclus dans le plan éternel de Dieu, parce qu'il est notre Père et nous devenons ses enfants. Ça c'est vraiment, la phase finale. Je ne remets pas en question ce que j'ai dit, que pour notre sanctification, ce qui compte, c'est notre identité. Mais c'est pour dire que notre identité, finalement, n'est identité parce que Dieu est ce qu'il est, au fond. Et si on sait bien qui est Dieu, à force d'écrire de lire les Écritures, de discuter entre nous, de le chanter, de le prier, plus on va comprendre notre identité d'enfant de Dieu. Et c'est donc avec Dieu que ce texte se termine et non pas avec nous. Parce qu'il dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je pense qu'après 8 chapitres, on peut tous dire Amen. Je n'ai pas entendu très fort. On peut tous dire Amen.